Vous écoutez RFI, les 13h à Paris, 11h en temps universel. Et c'est l'heure de RFI Midi avec tout de suite le journal d'Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Laurence, bonjour à tous. RFI Midi, 2h30 ensemble, sur tous les continents, avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux et à la une aujourd'hui encore la guerre au Liban et les attaques de l'armée israélienne contre la mission de l'ONU, la FINUL. Attaque jugée inacceptable par l'Union européenne et l'Espagne prévient ce matin. Il n'y aura pas de retrait des casques bleus comme le réclame Israël. Et après une frappe de drone qui a fait 4 morts et des dizaines de blessés parmi les soldats israéliens hier, le Hezbollah menace de mener de nouvelles opérations. De nouveaux tirs, ces tirs qui terrorisent le nord d'Israël et qui paralysent l'activité, notamment agricole. Écoutez.
Moi, d'un côté, je vends mes fruits et de l'autre, je développe une ferme touristique où les gens viennent faire leur propre cueillette. Mais dans ce contexte, cette année, tout s'est arrêté. Plus personne ne vient. J'ai même pas pris la peine d'ouvrir ma ferme. Mes revenus ont chuté de 40 à 45%.
Nous appellerons notre envoyé spécial dans nos journaux et nous reviendrons dans quelques minutes sur ces attaques contre la FINUL. Brusque montée de tension ce lundi aussi autour de Taïwan. Les autorités de l'île disent avoir repéré 125 avions chinois. Nouvelle démonstration de force de Pékin. Un avertissement lancé à ceux que la Chine appelle les séparatistes de l'île. Nous essaierons de comprendre pourquoi et pourquoi maintenant avec notre invité dans un peu plus d'une heure. Avant cela, nous parlerons des difficultés du secteur automobile en France et de la visite du ministre de l'économie auprès des salariés du groupe Sanofi, groupe qui vient de vendre l'une de ses filiales, celle fabriquant le célèbre médicament antidouleur Doliprane. On y revient dans quelques minutes et puis on parlera football aussi aujourd'hui et de la suite des éliminatoires pour la prochaine CAN. On vous dit tout dans Afrique Midi, à midi et demi temps universel. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue. Et pour commencer, comme chaque jour, c'est le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Direction le sud Liban et cette polémique sur le rôle de la FINUL.
Oui, le Premier ministre libanais dénonce un nouveau refus israélien de se plier au droit international en réponse à son homologue Benjamin Netanyahou qui a demandé à la FINUL d'évacuer la frontière entre les deux pays. Invité ce matin de RFI, l'ambassadeur d'Israël à Paris a précisé la position de son pays. La FINUL et plus largement l'ONU n'ont pas joué, selon lui, leur rôle à cette frontière pour empêcher le Hezbollah de s'installer dans la zone. C'est donc à Israël de faire le travail, a-t-il expliqué. On écoute Joshua Zarka.
La FINUL n'a rien fait entre 2006 jusqu'à présent. Si vous regardez les rapports que la FINUL a préparés pour l'ONU, le Hezbollah n'est pas présent dans le sud du Liban. Rien dans les rapports de la FINUL, qui normalement devait être l'autorité qui devrait rapporter au moins la présence de Hezbollah, les tunnels de Hezbollah, rien dans les rapports de la FINUL et de l'ONU ne présente une présence du Hezbollah dans le sud du Liban. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas fait leur travail. S'ils avaient fait leur travail, nous ne serions pas dans une situation dans laquelle nous sommes obligés d'utiliser la force contre l'Hezbollah dans le sud du Liban.
L'ambassadeur d'Israël à Paris ce matin sur RFI. Et maintenant, un autre point de vue, le général Olivier Passot est chercheur associé à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire à Paris. L'armée libanaise a certes été complaisante à l'égard du Hezbollah, mais il rappelle aussi qu'Israël a violé le droit international.
Il est vrai que la FINUL n'a pas réussi à permettre au gouvernement libanais et à l'armée libanaise de se déployer intégralement et que le Hezbollah s'en aille. Le Hezbollah a pénétré et infiltré les différents rouages de l'État libanais, y compris les services de renseignement et l'armée, et donc l'armée libanaise a été un peu complaisante vis-à-vis du Hezbollah, mais le droit international a été violé également par les Israéliens, par notamment des survols quasi quotidiens de l'espace aérien libanais.
Polémique sur le rôle de la FINUL, dossier de Pierre-Olivier. Le Hezbollah libanais menace Israël de nouvelles attaques en cas de poursuite de son offensive au Liban. Hier soir, une frappe de drone contre une position militaire au sud d'Haïfa a tué 4 soldats israéliens et blessé plus de 60 personnes. Le chef d'état-major de l'armée israélienne s'est rendu sur place ce matin. Il a reconnu que cette attaque du Hezbollah était douloureuse. La Chine a déployé ce matin des avions et des navires de guerre pour encercler Taïwan. Dans le cadre de manœuvres militaires présentées comme un sérieux avertissement aux autorités de l'île, autorités qualifiées par Pékin de séparatistes, les États-Unis ont dénoncé des opérations injustifiées constituant un risque d'escalade et l'Union européenne a appelé toutes les parties à la retenue. La Chine déclare qu'elle a maintenant mené avec succès ses exercices militaires, donc autour de Taïwan. La saison des Nobel se termine avec le prix d'économie. Il clôt en effet la saison 2024. Trois économistes sont distingués cette année. L'américano-turc Daron Acemoglu et les britanno-américains Simon Johnson et James Robinson. Galli Bonin, bonjour.
Bonjour.
Tous trois sont récompensés pour, je cite, leur recherche sur la compréhension des différences de prospérité entre les nations.
Oui, et plus précisément sur la manière dont les institutions en place influencent la prospérité d'un État. À travers leurs travaux, ils ont cherché à répondre à une question. Pourquoi y a-t-il des pays riches et des pays pauvres? Et pourquoi l'écart peine à se réduire? Eh bien, pour y répondre, ils ont fait un travail d'historien. Ils ont examiné les différents systèmes politiques mis en place par les Européens dans leurs colonies et l'influence que cela a eu sur le développement économique de ces pays. Un travail essentiel, souligne le comité qui a rappelé l'urgence de réduire les inégalités dans le monde. Des trois lauréats, Daron Acemoglu, 57 ans, était le plus en vue pour ce prix. Il est connu pour ses nombreux travaux sur les régimes autoritaires et la manière dont les institutions démocratiques favorisent la prospérité. Il est professeur à la prestigieuse université américaine MIT, tout comme son co-lauréat Simon Johnson. James Robinson enseigne quant à lui à l'université de Chicago. Les trois prix Nobel sont récompensés d'un chèque $1 million à partager entre les gagnants.
Galli Bonin du service économie, vous méritez une récompense, hein, vous aussi.
Des élections locales avaient lieu hier en Belgique.
Elles ont confirmé les grandes tendances observées aux législatives de juin dernier. Par exemple, l'effondrement du vote écologiste, en particulier à Bruxelles. Les électeurs belges ont dans l'ensemble voté à droite et au centre droit. Mais depuis hier soir, c'est l'extrême droite flamande qui fait les gros titres. Pierre Benazé, bonjour.
Bonjour.
Pour la première fois depuis la guerre, l'extrême droite flamande en effet réussit à décrocher la direction d'une ville de taille moyenne, Ninove, située à une trentaine de kilomètres de Bruxelles.
Oui, et les électeurs de la commune ont donné une très large victoire à la liste Forza Ninove, une alliance locale centrée autour du Vlaams Belang, le parti séparatiste d'extrême droite. Il y est dirigé par Guy Dazeler, qui va donc devenir le bourgmestre de Ninove, le maire de cette ville de 40 000 habitants. Sa liste a réussi à décrocher 47,4% des voix, mais c'est en fait une majorité absolue, car ce score va lui permettre d'occuper 18 sièges sur les 35 du conseil communal, l'équivalent du conseil municipal. C'est pour le Vlaams Belang la seule possibilité d'avoir un bourgmestre, car depuis 40 ans, les autres partis ont toujours appliqué le cordon sanitaire pour refuser les coalitions avec ce parti autrefois nommé Vlaams Blok. Guy Dazeler a fait campagne contre l'immigration. Les habitants, je cite, en ont assez des étrangers francophones de Bruxelles et des problèmes de société dus à l'immigration en provenance de Bruxelles. Il exulte depuis les résultats officiels dimanche soir. Il se vante d'avoir vaincu le cordon sanitaire, même s'il reste une dose de suspense, car le parquet annonce ce lundi enquêter sur une suspicion de fraude électorale.
Pierre, merci. C'était Pierre Benazé en direct de Bruxelles. Et puis, à propos encore de la Belgique, le roi des Belges, Philippe, et la reine Mathilde ont entamé ce matin à Paris une visite d'État de 3 jours en France.
Le CFA, l'accord cadre de coopération sur le Nil, vient d'entrer en vigueur.
Oui, signé par 7 pays d'Afrique de l'Est. Cet accord vise à définir les droits et devoirs précis des pays riverains du plus long fleuve d'Afrique, hein, pour sa mise en valeur économique. Ce projet est depuis le début porté par un pays, l'Éthiopie, au point que d'autres craignent d'être délaissés. Deux importants pays riverains, l'Égypte et le Soudan, ont refusé de signer le CFA. Gaël Alex.
Aujourd'hui marque l'aboutissement d'un long voyage vers l'utilisation équitable et raisonnable des eaux du Nil, se réjouit sur Ix Abiy Ahmed, premier ministre éthiopien. Le CFA reconnaît plusieurs principes fondamentaux, comme celui d'une coopération sur la base de l'égalité souveraine, de l'utilisation équitable des eaux ou encore de la prévention de tout préjudice pour les autres États du bassin. En outre, une commission du fleuve Nil doit être mise en place pour une gestion concertée. Autant de principes, selon l'Égypte et le Soudan, que c'est bien gardé de respecter l'Éthiopie. Lorsqu'elle a décidé il y a 10 ans de construire le plus grand barrage d'Afrique sur le Nil, affectant de facto les pays en aval. Réunie ce week-end au Caire, la commission technique conjointe pour les eaux du Nil, un organe de collaboration entre l'Égypte et le Soudan, a rejeté le CFA. Dans un communiqué, elle dénonce un document sans consensus qui ne respecte pas les lois internationales. Outre l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda et le Soudan du Sud ont ratifié le CFA. Tous ces pays se trouvent en amont du fleuve. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
C'est la fin du journal. Merci d'avoir écouté. L'information continue avec RFI Midi aux commandes. Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau. Nos auditeurs vous retrouvent dans 2 heures pour un prochain journal. Et nous parlons de l'actualité en France tout de suite.
RFI. La France à midi.
Où le gouvernement tente de rassurer les salariés de Sanofi, du groupe Sanofi. Le ministre de l'économie était ce matin sur l'un des deux sites de production du célèbre médicament Doliprane, un antidouleur. Il était à Lisieux, à l'ouest du pays. Bonjour Nathanaël Vitran.
Bonjour Anne.
Antoine Armand dit vouloir des garanties pour le maintien de la production sur le territoire du médicament qui est le plus consommé par les Français, alors que le géant pharmaceutique s'apprête à vendre sa filiale Opella à un fonds américain.
Oui, Sanofi a annoncé vendredi entrée en négociation exclusive avec CDNR, un fonds d'investissement basé à New York. L'entreprise française a besoin de cash. Elle espère renflouer ses caisses de près de 15 milliards d'euros en vendant Opella, sa filiale de médicaments sans ordonnance qui produit le Doliprane, mais aussi une centaine d'autres marques de médicaments. Opella, c'est 11 000 salariés dans le monde tout de même, dont un petit millier en France. Des salariés inquiets, ceux de Lisieux, se sont d'ailleurs mis en grève avant la venue des ministres de l'économie et de l'industrie, qui assurent, après avoir demandé des engagements. Écoutez, Marc Ferracci, ministre délégué chargé de l'industrie, et Antoine Armand, ministre de l'économie, au micro de nos confrères de BFM.
Des engagements sur le maintien de l'emploi industriel, évidemment. Des engagements sur les volumes de production, parce que cela tient également au volume que de maintenir l'emploi industriel.
Nous avons entamé une discussion pour un accord avec des garanties extrêmement fortes, et pas seulement pour demain et après-demain. Nous ne serons pas dans une logique de myopie, nous allons regarder loin.
Ils ont mis leurs petites lunettes, mais pas de quoi convaincre Fabien Mallet, responsable CGT chez Sanofi France.
La seule garantie qu'il va pouvoir donner, comme toute garantie en termes de rachat, c'est de ne pas partir dans les deux ans qui viennent. Donc pour nous, ça ne nous rassure pas. Et on ne va pas être sur autre chose qu'une annonce de bon procédé avec la main sur le cœur qui nous dit « promis, promis, on ne partira pas ». Sauf qu'on sait pertinemment que les fonds d'investissement ne sont pas là pour maintenir l'existant, mais systématiquement pour pressurer et faire le maximum de profit. Donc on n'y croit pas deux minutes à cette garantie, même si elle était apportée à un ministre.
Et pourquoi est-ce que ce dossier est aussi sensible ?
Eh bien parce qu'on parle de médicaments. 4 ans après le début de la pandémie de Covid-19, de nombreux pays dont la France avait découvert à cette occasion à quel point ils étaient devenus dépendants de l'étranger, y compris pour des produits sensibles. Le Doliprane est symbolique, c'est le médicament préféré des Français, pour reprendre une expression un peu étrange du ministre de l'Industrie. Emmanuel Macron en avait fait en 2020 un symbole de la reconquête industrielle. Le gouvernement a beaucoup investi pour favoriser la relocalisation en France, de la production de la molécule de paracétamol utilisée dans le Doliprane. L'Élysée avait pesé pour que figure dans les candidats au rachat un fonds français. Sanofi a finalement choisi les Américains, mais pour l'économiste Frédéric Bizard, spécialiste des questions de santé, ça n'aurait de toute façon pas changé grand-chose.
Vous n'avez plus des industriels en face de vous. Vous avez des fonds d'investissement qui sont un peu partout dans le monde. Vous n'avez personne en face de vous. Vous avez des capitaux financiers. Et donc, que vous ayez une partie de fonds d'investissement en France, peu importe, vous êtes toujours sur cette logique ultra-financière. Ça veut dire qu'en général, ça se fait en deux temps. Un premier temps où on vous promet des garanties à 3 à 5 ans de conserver les emplois, de conserver la production en France, mais comme de toute façon cela n'est pas assez rentable de produire en France des produits à bas prix, forcément que le fonds, d'abord le fonds il est là pour 3 à 5 ans, mais donc vous avez dans le deuxième tour de table une cession à d'autres fonds qui assurent cette délocalisation et l'État français ne peut plus rien dire parce qu'il est minoritaire. Donc là je crois qu'on est forcément à moyen terme dans de la délocalisation à partir du moment où on cède au marché financier.
Et les salariés de Lisieux en grève comme les syndicats demandent donc au gouvernement non pas simplement d'exiger des garanties mais de bloquer la vente comme il en a le pouvoir.
Merci Nathanaël Vitran.
RFI à Paris, 89 FM.
Le ministre de l'économie sur l'un des sites de Sanofi, le président, lui, au Mondial de l'Auto. En attendant le public, à partir de demain, la plupart des grands groupes du secteur sont représentés, ce qui n'avait pas forcément été le cas ces dernières années. Mais tout n'est pas rose et nous en parlons avec Flavien Neuvy. Bonjour.
Bonjour.
Économiste et directeur de l'Observatoire CTLM. Ça fait 20 ans qu'il n'y avait pas eu aussi peu de voitures neuves vendues en France. Pourquoi ?
Écoutez, aujourd'hui, l'industrie automobile doit faire face à plusieurs défis majeurs. Le premier défi, c'est quand même le défi de l'électrification des voitures. Il faut rappeler que d'ici 2035, 100% des véhicules neufs devront être électriques, alors qu'en 2019, c'était 1% des ventes. Donc, en l'espace de 15 ans, on va passer de 1 à 2% à 100%. Donc, ça, c'est un gros défi. Le deuxième défi, c'est l'arrivée des constructeurs chinois, parce qu'ils ont de grandes ambitions. Ils font des bonnes voitures et ils pourront les vendre certainement pas cher, moins cher que les constructeurs européens. Et enfin, le troisième problème, c'est ce que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'on a des marchés qui sont relativement faibles. Si on prend le marché européen, par exemple, on est 20% en dessous des niveaux que nous avions avant la crise sanitaire, donc en 2019. Aux États-Unis, on est 10% en dessous. Et donc, face à cette demande qui est très faible, on a beaucoup d'usines, beaucoup de capacités de production, et les usines ne tournent pas à plein régime, c'est le moins que l'on puisse dire, et donc du coup, il y a de l'inquiétude.
C'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, ce que vous nous décrivez ?
Ben, la conséquence, c'est que pour le moment, si vous voulez, avec des volumes comme ça, on a des constructeurs qui gagnent moins d'argent. On a vu, par exemple, Volkswagen qui a annoncé penser à la possibilité de fermer deux usines en Allemagne parce qu'il y a des excédents de production. Et donc, oui, on est dans une situation qui est difficile. On parle souvent des constructeurs, à juste titre, mais il ne faut pas non plus oublier les équipementiers automobiles, hein, les sous-traitants, parce qu'ils font travailler beaucoup de monde. Et puis aussi les concessionnaires automobiles qui, eux, vendent des voitures un peu partout en Europe. Donc, on va dire que l'industrie automobile traverse une période très, très mouvementée.
Avec des conséquences notamment en France, l'équipementier Valeo par exemple va vendre 3 usines, il l'a annoncé il y a quelques mois après avoir lancé déjà un plan social dans le monde entier. Et puis il y a 3 mois, une entreprise sous-traitante de Stellantis a mis la clé sous la porte en banlieue parisienne. Est-ce qu'il faut s'attendre selon vous à d'autres nouvelles de ce type ?
Ça dépendra en fait de l'évolution du marché. Si on a un marché qui se redresse, qui repart de l'avant, on pourra certainement éviter un certain nombre de fermetures. Pour autant, aujourd'hui, on n'en prend pas le chemin parce que on voit qu'on a, par exemple, l'alourdissement du malus qui va augmenter encore les prix de vente des voitures. Et donc, les ménages qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter une voiture neuve, il faut rappeler que le prix de vente d'une voiture neuve en Europe est autour de 35 000 euros. Donc, il y a beaucoup de ménages qui n'ont pas les moyens d'acheter ces voitures ou qui ne veulent pas mettre autant d'argent et donc ils se tournent vers le marché de l'occasion. Donc, en fait, pour répondre à votre question, la clé réside dans la relance des marchés automobiles en Europe pour que l'ensemble de la filière puisse repartir de l'avant.
Et alors, par quoi ça passe ? Parce que, par exemple, ces dernières années, Renault et Stellantis ont largement délocalisé la production de voitures particulières. Ça veut dire que c'est plus possible aujourd'hui de produire en France pour un constructeur ?
Ben, en France, si vous voulez, on produit encore des voitures, hein, à peu près 1 500 000 voitures par an. Il faut rappeler qu'au début des années 2000, on était plus proche des 3 millions. Donc, on a une production automobile qui a beaucoup baissé, mais on produit encore des voitures. Et les voitures que l'on produit en France sont plutôt des grosses voitures. Des voitures qui sont plus chères. Et pourquoi on vend des grosses voitures ou pourquoi on produit des grosses voitures ? Parce que comme on peut les vendre plus chères, on peut supporter, enfin les constructeurs peuvent supporter des coûts de production plus élevés. Le problème, c'est que ce sont ces voitures qui sont les plus taxées, avec l'augmentation du malus, avec aussi la taxe sur le poids des véhicules qui va augmenter au cours des prochaines années. Donc finalement, on est en train de pénaliser la vente de ces voitures qui sont plutôt des voitures produites en France. Et c'est aussi pour ça qu'il y a de l'inquiétude parce que cette filière automobile fait quand même travailler beaucoup de monde. Hein. Il faut rappeler qu'il y a 1 actif sur 10 qui travaille directement ou indirectement pour l'industrie automobile. Et donc, oui, ça génère de l'inquiétude. Et il y a déjà eu des fermetures chez les équipementiers, notamment, vous le rappeliez, des fermetures de sites.
Alors, je disais que Renault et Stellantis avaient délocalisé, c'est vrai, pour les voitures particulières. C'est tout à fait différent pour les utilitaires, puisque 4 des 5 véhicules qui sont les plus vendus chez Renault restent fabriqués en France. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Quelle est la différence entre la production de voitures particulières et la production de ces véhicules utilitaires ?
Il n'y a pas de différence fondamentale. Il y a des lignes de production, effectivement, qui sont restées en France. Ce qu'on peut dire, c'est que les clients ne sont pas les mêmes, puisque les véhicules utilitaires légers sont plutôt achetés par des entreprises, quasiment exclusivement par des entreprises. Donc, la clientèle n'est pas la même. Et donc, les choses sont un petit peu différentes. Après,
il y aurait moins de baisse des achats, c'est ça ?
Oui, alors il y a ça. Il faut rappeler que le véhicule utilitaire léger en France, le marché du neuf, c'est à peu près 400 000 voitures par an, alors que le marché du véhicule particulier, c'est 1 800 000. Donc le véhicule particulier est beaucoup plus important en volume que le véhicule utilitaire léger. Mais on produit encore des voitures en France. On a Toyota dans le nord de la France qui produit énormément de voitures. Donc on a encore cette production. En fait, la vraie question, c'est de savoir si oui ou non, on va repartir de l'avant en 2025 et 2026. Pour l'instant, on voit que les automobilistes sont assez hésitants. Ils ne savent pas s'il faut acheter l'électrique, s'il faut rester sur du thermique ou de l'hybride. Donc, il y a beaucoup d'hésitation et toute cette hésitation se transforme, si vous voulez, en attentisme. C'est-à-dire qu'avant de changer de voiture, ils préfèrent attendre un petit peu, garder leur ancienne voiture ou alors se tourner vers le marché de l'occasion qui, lui, se porte bien puisque les ventes, depuis le début de l'année, ont progressé de 6%.
Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure de l'électrique. Les groupes automobiles vont devoir rapidement augmenter la part de véhicules électriques dans leurs ventes, sous peine de se voir infliger des amendes assez lourdes par l'Union européenne à partir de l'année prochaine. Il y aura des seuils à respecter. Est-ce que les groupes français sont prêts ?
C'est difficile. C'est difficile. D'ailleurs, les groupes automobiles, enfin la CEA, qui est l'organisation européenne qui regroupe les constructeurs automobiles, a tiré la sonnette d'alarme en expliquant que potentiellement il pourrait y avoir l'année prochaine sur l'ensemble des constructeurs 15 milliards d'euros d'amende, ce qui est tout à fait considérable, alors même que l'industrie est faible et que les constructeurs sont fragiles. Et c'est vrai que ce sera difficile parce que les constructeurs proposent des voitures électriques. Et là, au salon de l'auto à Paris, on va voir des nouveaux modèles. Alors, on pourrait citer la Renault, la R5 de chez Renault ou l'IC3 de chez Citroën. Donc, des voitures électriques qui seront plus abordables. Mais c'est vrai que les constructeurs ne peuvent pas non plus obliger les clients à acheter des voitures électriques. Ça, c'est pas possible. Et donc, du coup, ça dépendra de l'appétence des clients pour les voitures électriques. Mais pour l'instant, effectivement, la trajectoire des ventes en 100% électrique n'est pas conforme à ce qui a été prévu initialement. Et donc, ça met les constructeurs en difficulté par rapport aux objectifs d'émissions de CO2.
Et est-ce qu'on sait pourquoi elle est si faible, cette appétence pour les véhicules électriques dont vous nous parlez ?
Oui, on le sait. On identifie parfaitement les freins. Le premier frein, c'est un frein qui est lié au prix des voitures. Les prix des voitures neuves sont beaucoup trop élevés et les voitures électriques sont encore plus chères. Donc, les ménages n'ont pas les moyens d'acheter ces voitures, en particulier les jeunes. Le deuxième frein, c'est que autour de la voiture électrique, il y a un message qui s'est un petit peu brouillé. On avait publié une étude l'année dernière à l'Observatoire CTLM qu'on avait appelé l'automobiliste dans le brouillard. Pour la voiture électrique, par exemple, le fait que les prix de l'électricité aient beaucoup augmenté au cours de ces deux dernières années a suscité de l'inquiétude chez ceux qui envisageaient d'acheter une voiture électrique. Il y en a qui se posent la question, est-ce que j'achète une voiture électrique ou pas? Et quand ils voient les prix de l'électricité augmenter, forcément, ça a plutôt tendance à les dissuader. Donc oui, il y a plein d'éléments. On pourrait parler de l'autonomie, des bornes de recharge. Il y a beaucoup d'éléments qui, effectivement, génèrent de l'incertitude lorsque l'on veut acheter une voiture électrique.
Merci beaucoup, Flavien Neuvy, d'avoir été en ligne avec nous, économiste de l'automobile et directeur de l'Observatoire CTLM.
Merci à vous.
Autre rendez-vous aujourd'hui, les Assises nationales des associations d'étudiants sénégalais. Et c'est un espoir pour les près de 29 000 Sénégalais qui sont inscrits dans les universités françaises. Parce que beaucoup, beaucoup d'entre eux font face à des difficultés administratives ou pratiques. Ils l'ont raconté à notre reporter Sylvie Coffi.
L'atelier de Dr Joseph Diop, vous êtes super nombreux là-bas.
C'est à l'université Sorbonne Nouvelle, dans le 12e arrondissement parisien, qu'une centaine d'étudiants participent à ces premières assises. Répartis dans plusieurs groupes de travail, cet atelier au total, où chacun peut évoquer son quotidien ou encore exposer ses difficultés. Dimbassar, 24 ans, est licencié en géographie.
Je dois récupérer mon titre de séjour, il y a les rendez-vous disponibles, mais à chaque instant que je mets mon numéro étranger, on me dit que le numéro n'est pas reconnu et mon titre de séjour s'expire dans un mois. Et ça va être très compliqué d'avoir un job et de pouvoir résoudre certains problèmes financiers. C'est pour cela que je me suis déplacé pour demander une aide par rapport à cette situation.
Renouveler le titre de séjour ou changer de statut à la fin des études pour avoir une première expérience professionnelle est un véritable casse-tête pour cette étudiante fraîchement diplômée.
On n'est pas favorisé en France. Limite, on nous met des bâtons pour qu'on quitte le pays après nos études, au fait. Moi, c'est ce que j'ai compris. Ici, on doit prouver plus que les Français. Et c'est dur pour nous, en plus d'être loin de nos familles, de vivre seul. À chaque changement de titre, que ce soit séjour, statut, on le fait avec beaucoup de stress. Il n'y a jamais une certitude de l'avoir. Le senti dans ma voix, il y a l'émotion, parce que c'est ce qu'on est venu en quelque sorte dénoncer aujourd'hui dans ces assises.
Avoir et trouver un toit, c'est le problème numéro un pour les nouveaux arrivants qui ne sont pas toujours bien préparés, en témoigne le président de l'association, l'étudiant 221, Henri Sarr.
Il s'agit d'une étudiante en fait, qui est arrivée en France. À un certain moment, elle a été expulsée par la personne qui avait pris l'engagement de l'héberger. Je ne sais pas par quel moyen elle a trouvé mon numéro. Elle m'a appelé et j'ai découvert une voix pleine de désarroi. Une personne qui me dit, je suis étudiante sénégalaise en France et depuis, la personne qui était censée m'héberger m'a sorti de chez elle. Je dors dans les gares et dans les centres commerciaux. Et j'ai visualisé automatiquement une de mes sœurs et ça a naturellement forcé une réaction de ma part en activant mes contacts pour lui trouver du travail et un nouveau logement.
Il y a aussi ces étudiants qui, parce qu'ils n'ont pas de bourse, sont obligés de travailler.
Parce que la semaine, on est à l'école. Le week-end, on est dans les jobs. On travaille déjà pour payer le loyer et aussi pour nos propres besoins, nourriture et tout.
L'objectif de ces assises est d'alerter le nouveau gouvernement afin qu'il mette en place des réformes pour sortir les étudiants sénégalais de la précarité.
Reportage de Sylvie Coffi. « Notre rencontre avec une personnalité du monde de la culture, aujourd'hui le photographe Olivier Jobard, récompensé par le prix Marc Ladrette de la Charrière de l'Académie des Beaux-Arts. Ce prix salue son projet « Notre famille afghane, souvenir d'une vie envolée », qui suit pendant 10 ans un enfant, un adolescent afghan, Gorban, arrivé seul en France avant d'être naturalisé et puis de pouvoir faire venir sa famille au moment de la prise de pouvoir des talibans en 2021. Le photographe est au micro d'Isabelle Chenu.
Bonjour Olivier Jobard.
Bonjour.
Vous êtes photographe et depuis 30 ans, vous parcourez les chemins du monde pour photographier le monde, notamment l'Afghanistan. Mais dans cette exposition à l'Académie des Beaux-Arts, c'est un album de famille que le visiteur feuillette et qui est parti d'une rencontre avec un jeune Afghan qui s'appelle Gorban et que vous avez rencontré en bas de chez vous.
En fait, je travaillais sur les jeunes mineurs isolés qui végétaient dans Paris à l'époque. C'était en 2010. En fait, c'est Gorban qui m'a happé. Il faisait partie d'un groupe de jeunes mineurs isolés, mais en fait, c'est le seul qui a essayé de me faire comprendre des choses, de me parler, qui a accepté que je le photographie. Et puis, il a finalement été pris en charge par des associations, protégé, mis dans un centre, dans un foyer. Et du coup, je suis resté en contact avec lui par ce biais-là.
Quelque chose va se nouer entre vous et vous allez produire ce travail photographique qui s'appelle « Notre famille afghane, souvenir d'une vie envolée ». Vous retournez en Afghanistan pour recomposer un peu l'album de famille qu'ils n'ont pas pu amener avec eux, puisque la fratrie, finalement, va être rapatriée vers la France au moment de l'arrivée des talibans.
On est en août 2021. Ils n'ont rien pris avec eux qu'un petit sac. Et ils ont quelques photos sur leur téléphone.
Donc, vous documentez l'arrivée en France des deux frères et des deux sœurs de Gorban. Il faut dire aussi que dans ce travail photographique, il y a votre famille. Vos enfants vont servir un peu de pont à leur arrivée en France.
Oui, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Moi, au départ, j'ambitionnais pas de faire un projet de la sorte. J'allais, en tant que parrain républicain, retrouver la fratrie qui était mise en quarantaine à Pierriac-sur-Mer. Et avec mes enfants, on est allés ensemble. Et en fait, naturellement, les enfants se sont invités dans le cadre. Et puis j'ai trouvé ces moments très beaux, en fait. L'enfant est roi en Afghanistan, mais même s'il ne parlait pas la même langue, j'ai fait deux voyages grâce au prix Marc Ladrette de la Charrière en Afghanistan. Un en hiver, en février 2023, où j'ai pu aller à Bamiyan sur les traces de Mehrab, qui avait été étudiant sur place. J'ai pu aller dans sa faculté où j'ai vu que la moitié des chaises étaient vides parce que les jeunes filles ne peuvent plus aller en fac. Je suis retourné dans l'école où Sima avait appris la couture, qui n'existe plus aujourd'hui, mais dont l'éducatrice ou la formatrice continue de donner des cours chez elle à des jeunes femmes, donc de manière clandestine.
Qu'est-ce que vous constatez de l'Afghanistan à ce moment-là?
En fait, en septembre dernier, j'ai pu, ce que je n'avais pas pu faire depuis très longtemps, traverser le pays. Parce que, étonnamment, les routes sont sécurisées. Donc, il y a des contrôles des checkpoints talibans tous les 10 ou 15 kilomètres. Mais avec les autorisations, on peut facilement circuler. Et ce qui a changé, en fait, c'est qu'autrefois, ils cultivaient le pavot. Et en fait, maintenant, le pavot a été éradiqué par les talibans. Et ils cultivent tous de la pomme de terre.
Alors Olivier Jobard, vous documentez le passé perdu de cette famille, mais vous documentez aussi leur intégration en France.
Leur intégration qui est plutôt réussie. Alors ils ont déjà eu un accueil digne de la France, puisqu'ils ont été évacués par la France. Ils ont eu leur demande d'asile qui a été accordée très rapidement. Ils ont eu le droit de travailler. Ils ont été pris en charge par des associations formidables en Vendée. Très vite, on leur a proposé des stages. Par exemple, Sorab avait un stage dans une entreprise pour être électricien. Quand on a un accueil digne, à force de travail et d'acharnement de leur part, eh ben ça peut marcher. Et que donc cet accueil qui est primordial devrait servir d'exemple en fait pour l'ensemble des exilés qui arrivent en France.
Merci Olivier Jobard. Notre famille afghane, souvenir d'une vie envolée, c'est une exposition à voir à l'Académie des Beaux-Arts. Et il y a aussi un livre aux éditions de Juillet qui fait écho à ce travail photographique.
Le photographe Olivier Jobard au micro d'Isabelle Chenu, entretien à retrouver sur internet rfi.fr comme toutes nos informations. Vous pouvez aussi nous réécouter quand vous le voulez sur l'appli RFI Pure Radio. Restez à l'écoute, on se retrouve dans une minute maintenant pour faire un point sur l'actualité internationale et puis parler de l'actualité en Europe.
Ce lundi sur RFI.
Comment microbes et bactéries vont soigner le monde?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Ils peuplent les sols et les océans et colonisent tous les êtres vivants. Les micro-organismes sont nos alliés pour régénérer la Terre et ses habitants. Mais comment? La révolution des microbiomes, à la fois médecine des hommes et médecine des sols.
Autour de la question avec Caroline Lachowski. Tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI. C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Dans le club de C'est pas du vent, les journalistes de RFI en français et en langues étrangères et ceux d'autres médias reviennent sur les sujets environnementaux qui les ont marqués. Ils partagent les coulisses de leur travail et commentent les films produits par les vidéastes du réseau Hip-Hop.
C'est pas du vent.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.